À la fin des années 90, l'avenir du monde paraissait assez clair à beaucoup de gens. La guerre froide était terminée, c'était une période de croissance économique, et certains politologues, économistes et autres affirmaient que l'humanité allait se stabiliser à long terme dans un système marqué par le libéralisme économique, la tolérance et la sortie progressive des conflits armés. Alors, 20 ans plus tard, quel bilan pouvons-nous tirer de ce pronostic ? Terrorisme, Moyen-Orient en ébullition, crise environnementale, crise sociale et identitaire, crise migratoire, crise de l'intégration européenne, rejet des élites. L'homme a souvent la prétention de pouvoir contrôler et prédire l'histoire, de donner lui-même du sens à l'histoire. Mais l'histoire, justement, l'histoire elle-même nous dit tout autre chose. Et dans un sens, elle n'est que surprise après surprise. Le récit de Noël est souvent relégué à une sorte de conte sympathique, gentil et apaisant, si on y fait encore référence dans notre société aujourd'hui. Et pourtant, Noël est le récit de la plus grande des surprises historiques. Dieu lui-même qui prend l'humanité et son histoire à contre-pied, qui renverse tous nos présupposés et qui répond à nos attentes les plus profondes, mais d'une manière totalement inattendue. Alors, je vous invite à relire une partie de l'histoire de Noël ensemble dans le récit de Luc, et nous allons essayer d'y voir les différents éléments de surprise qui ont changé le cours de l'histoire. Alors, dans les Bibles bleues, nous sommes à la page 1144. Page 1144. En fait, même 1145, tout au en haut de la page. Et la lecture sera un tout petit peu longue, donc du verset 67 du chapitre 1, donc Luc 1, verset 67, jusqu'au chapitre 2, verset 32. Le message ensuite sera pas trop long, donc ne vous inquiétez pas trop. Donc Luc 1, 67, jusqu'à 2, 32. Son père Zacharie, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc l'enfant dont il est question là, c'est Jean-Baptiste. Chapitre 2. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils y trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Je vous invite à considérer dans ce texte que nous venons de lire 3 divines surprises. D'abord la surprise du contexte, ensuite la surprise des circonstances et enfin la surprise du message. Surprise du contexte, des circonstances, du message. Alors d'abord la surprise du contexte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome de Paris. C'est une pathologie médicalement reconnue qui affecte environ 20 personnes par an, généralement des touristes japonais à Paris. Et il s'agit d'un état dépressif très fort subi par des personnes qui visitent Paris pour la première fois et qui sont traumatisées par la différence énorme entre l'image qu'elles avaient de Paris avant de venir et la réalité. Et au Japon, semble-t-il, j'ai fait un peu de lecture, Paris est parfois présenté comme une sorte de ville de contes de fées, où tout est joli, tout est pur, tout le monde a le port altier et se comporte de manière impeccable. Donc c'est sûr que quand ils arrivent et qu'ils prennent la ligne 13, le choc doit être rude. Tout ça pour dire que la réalité est parfois différente, très différente de nos attentes, et parfois au point qu'on a du mal à comprendre la réalité qu'on vit et à la reconnaître pour ce qu'elle est. La comparaison s'arrête là. Mais dans notre texte, de même, on fait face à des événements qui, dans un sens, étaient attendus depuis très longtemps, mais qui vont se passer d'une manière et dans un contexte totalement inattendu. Le début du chapitre 2 nous situe le récit dans l'histoire. Nous sommes à l'époque de l'empereur Auguste, verset 1, à un moment où un recensement avait été ordonné, verset 2, il y a quelques débats historiques sur quel recensement exactement, je ne rentre pas là-dedans maintenant, mais en tout cas, Luc nous donne des indications assez précises. Ce recensement romain est un rappel qu'Israël est sous occupation étrangère. Ces recensements avaient un rôle avant tout fiscal. Il s'agissait de vérifier que tout le monde payait bien l'impôt à l'empereur, à l'empire. Et donc, c'est un rappel qu'Israël est sous occupation étrangère. Le peuple qui avait vocation, croyait avoir vocation et qu'il l'avait, selon la Bible, à être le peuple de Dieu, eh bien, a dû s'incliner face à la puissance bien humaine des Romains. Et à vrai dire, Dieu semblait bien lointain face à l'actualité souvent sinistre et à l'histoire qui semblait se répéter vainement à l'époque comme aujourd'hui. Ça faisait si longtemps qu'Israël attendait une vraie délivrance. Depuis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, on attendait l'accomplissement de ces promesses anciennes, un peuple qui remplirait la terre entière et qui serait béni à l'extrême. Depuis Moïse, on attendait un nouveau grand prophète qui donnerait au peuple une nouvelle instruction. Depuis le roi David, on attendait un héritier de David, un nouveau roi d'Israël, mais qui aurait cette fois un règne universel, qui aurait autorité sur tous les rois, sur tous les puissants de la terre, et dont le règne serait éternel. Depuis les prophètes Ésaïe, Jérémie et les autres, on attendait un profond renouveau spirituel, le pardon de la désobéissance chronique du peuple, une nouvelle relation avec Dieu, le renouvellement de l'esprit humain, et en définitive, le renouvellement même du monde entier. Et à plusieurs moments de l'histoire d'Israël, on avait cru discerner des signes que cette nouvelle ère allait arriver. Le règne glorieux et prospère de Salomon, avec sa construction du temple, par exemple, la grande réforme religieuse du temps du roi Josias, le retour de Babylone après 70 ans d'exil, la reconstruction du temple après cet exil, toutes ces époques auraient pu sembler propices à la venue d'un grand roi, d'un sauveur. Mais chacun de ces espoirs s'est soldé par la déception et l'échec. Et ensuite, plus rien, semblait-il. Plus de prophètes pendant plusieurs siècles. Un long désert spirituel marqué par une foi et une espérance déclinante. Je ne sais pas si certains ici se sentent un peu dans cette situation. Un long désert spirituel marqué par une foi et une espérance déclinante. Alors bien sûr, ces promesses anciennes, on les lisait encore à la synagogue. On y croyait encore dans un sens, ce n'était pas complètement oublié. Mais n'était-ce pas tentant de voir l'espérance biblique comme étant celle d'un autre temps, plus naïf peut-être. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut entendre les paroles du prêtre Zacharie, le père de Jean-Baptiste, donc, au verset 68 à 79. J'en relis juste une petite section. « Béni soit le Dieu, le Seigneur, donc verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes et des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. » À un moment où beaucoup ne s'y attendaient plus, Zacharie affirme que cette intervention décisive de Dieu, annoncée depuis des siècles, ça y est, elle a commencé. À bien des égards, l'époque à laquelle nous ramène ce texte nous rappelle la nôtre. Une époque désenchantée, où l'espérance se fait rare. L'idée selon laquelle Dieu serait à l'œuvre semble risible pour beaucoup. Ce qui est à l'œuvre en apparence, c'est la loi du plus fort, la puissance de l'argent ou des armes, ou encore la descente progressive de nos sociétés vers le consumérisme effréné et la perte de repères essentiels. Est-ce qu'on peut vraiment croire à l'action de Dieu dans ce monde-là? Eh bien, ce texte nous rappelle que Dieu reste le maître du temps et de l'histoire. Et alors qu'aujourd'hui nous attendons une seconde et définitive intervention de Jésus-Christ dans notre monde, ce texte nous rappelle que Dieu aime les surprises. Et les apparences de la puissance humaine et des évidences humaines ne menacent en rien son action et ses projets. À vrai dire, le simple constat des surprises permanentes dans l'histoire, même à l'échelle humaine, pensons à 2016, qui aurait prédit plein de choses qui se sont passées en 2016. Le simple constat de ces surprises permanentes dans l'histoire, même à notre échelle, devrait nous garder humbles lorsque nous croyons pouvoir décréter de quoi sera fait demain. Et cela devrait nous amener à nous tourner avec espérance vers le Dieu qui n'a pas oublié Israël et qui aujourd'hui encore n'a pas oublié son Église et ses projets pour le monde. La surprise du contexte donc de cette intervention. Mais ce qui frappe plus encore dans ce texte, c'est la surprise des circonstances. C'est notre deuxième point. En 2007, un violoniste virtuose, Joshua Bell, a fait une expérience qui a été documentée par des journalistes, et je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler. Il est allé jouer incognito, habillé très simplement, dans le métro de Washington. C'est un des meilleurs violonistes au monde. Et comme à Paris, les violonistes de niveau très variable sont assez fréquents dans les transports en commun. Et donc Bell s'est placé là, il a joué pendant des heures et des heures, et seule une petite poignée de personnes parmi la foule s'est arrêtée, ne serait-ce que cela, s'est arrêtée pour l'écouter jouer quelques instants. Une seule personne, tout au long de la journée, a reconnu l'artiste. Alors on peut supposer que Bell a joué aussi bien qu'il ne l'aurait fait lors de l'un de ses grands concerts. Mais le cadre et les apparences ont tout changé. Alors que les gens se déplacent pour aller à un concert dans un cadre prestigieux avec tout un ensemble de codes culturels et de repères attendus, Bell, lui, était venu à leur rencontre dans leur quotidien ordinaire. Lorsque Dieu a tenu ses promesses d'envoyer un sauveur à Israël et au monde, tout s'est passé tellement différemment de ce à quoi les gens s'attendaient que la grande majorité n'a pas compris ce qui se passait. Et la manière dont Luc écrit ce récit met clairement en évidence cette surprise des circonstances. D'abord, plutôt dans le chapitre 1, il y a eu le choix divin d'envoyer son sauveur, non pas par une sorte d'intervention triomphable et visible aux yeux de tous, mais dans l'humilité et la fragilité d'une naissance humaine. Et ainsi, la phrase qui, dans un sens, devrait être soulignée 12 fois dans nos Bibles, parce que c'est la phrase qui nous dit « ça y est, ce que Dieu a annoncé depuis des siècles est arrivé », cette phrase qui révèle que le Messie, il est là parmi nous, elle est d'une sobriété incroyable. Verset 7, « elle mit au monde son fils premier-né ». Mais plus frappant encore, il y a l'extrême humilité des circonstances de cette naissance. Elle est souvent relevée, cette humilité, mais il vaut la peine d'y revenir quelques instants. Joseph et Marie viennent d'une petite ville de Galilée, Nazareth, verset 4. Joseph était de la famille et de la lignée de David, de façon lointaine, mais cette gloire familiale, justement, était bien lointaine. Joseph, dans les faits, était un simple charpentier galiléen. Personne n'avait entendu parler de lui parmi l'élite religieuse à Jérusalem, ni parmi, a fortiori, parmi les dirigeants romains. Joseph et Marie étaient inconnus au bataillon. Personne n'avait entendu parler de ce modeste couple. Mais c'est ce couple, cette femme, Marie, que Dieu a choisie pour faire intervenir la naissance dans notre humanité de son fils. L'humanité est soulignée à nouveau au verset 7 lorsqu'on apprend que Marie donne naissance dans une mangeoire. Alors, il n'est pas certain que c'était vraiment au milieu des animaux comme on le voit dans les crèches. C'est pas exclu, mais c'est pas certain. Ni qu'ils aient été refoulés d'une sorte d'autel. L'idée est plutôt, vraisemblablement, qu'il n'y avait pas de place dans la salle habitée principale de la maison où ils se rendaient, où il y avait peut-être de la famille de Joseph, qui sait, et que donc ils ont dû aller dans une sorte de à l'étage où on gardait la nourriture des animaux et les animaux, en tout cas une partie du temps, lorsqu'ils n'étaient pas dehors. Donc ce n'était pas une salle habitée. Un équivalent approximatif dans notre contexte, approximatif serait de dire que Marie, comme elle n'avait pas de place dans un des appartements de l'immeuble, a donné naissance dans la cave de l'immeuble, parce qu'il n'y avait plus de logement libre. Donc ça nous dit quand même quelque chose de fort. Et Luc braque particulièrement les projecteurs sur ce paradoxe au verset 11 et 12. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » On entend ces termes tellement forts. « Il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Une armée d'anges, une échelle de feu, qui sait ? Eh bien non, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. On peut difficilement imaginer un contraste plus fort. Si vous voulez voir le Sauveur, le Messie, le Seigneur, expression qui désigne généralement Dieu lui-même, le Seigneur, le Sauveur, eh bien vous le trouverez enveloppé de langes. Aujourd'hui, on dirait vêtu d'une couche et couché dans une mangeoire. L'humilité des circonstances, donc, mais elle est évoquée à nouveau par les premiers hommes qui entendent la nouvelle de la naissance du Sauveur, versets 8 à 14. Des bergers dont on n'apprendra jamais le nom, des hommes d'une profession modeste, caractéristique de ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes populaires. Donc si on devait se risquer à une contextualisation, on pourrait dire que la nouvelle n'a pas été annoncée à des cadres supérieurs du 7e arrondissement, mais à des policiers municipaux à la Courneuve. L'humilité est encore en sous-texte au verset 24, quand Joseph et Marie, accomplissant le sacrifice rituel qui devait être accompli après une naissance, offrent le sacrifice du pauvre, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, d'après Lévitique 12:8. Lorsque les gens avaient les moyens, c'est un agneau qu'ils offraient. Et la loi de Moïse permet cette option moins chère pour les couples qui n'en avaient pas les moyens. Et puis, notre section se termine avec les paroles de Siméon, versets 25 à 32. Lui aussi inconnu au bataillon, par ailleurs, mais qui nous est simplement présenté comme juste et pieux. Donc mettons-nous à la place des Juifs de l'époque. Les Écritures annoncent depuis des siècles que Dieu va envoyer un sauveur, un roi qui régnera sur son peuple, le libérera et qui régnera sur le monde entier. Qui imaginerait que ce roi vienne dans une telle simplicité et faiblesse et dans un tel anonymat? Alors ça, on le dit souvent, et à juste titre. Maintenant, la question se pose forcément, pourquoi? Alors, pourquoi en tout cas est-ce que Luc veut attirer notre attention sur ces circonstances? Et surtout, dans la mesure où on peut spéculer un peu, pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire ainsi? Et pas à peine de spéculer tant que ça, puisqu'il y a quand même des éléments dans la Bible qui nous le disent. Ce texte-ci ne nous répond pas noir sur blanc. Pourquoi cette humilité? Mais quand on voit comment Luc présente les choses, et quand on a à l'esprit le reste de la Bible, il me semble qu'on peut discerner deux raisons au moins pour lesquelles Dieu a agi ainsi. D'abord, ces circonstances nous disent que Dieu ne se pliera pas à nos projections et à nos attentes. Il n'est pas impressionné par ce qui nous impressionne. Lui qui possède en lui-même toutes les perfections, il n'a pas besoin de se donner l'apparence du pouvoir, parce que le pouvoir, il l'a. Totalement, absolument, infiniment. Et il n'a besoin de le prouver à personne. Et voici comment l'apôtre Paul décrira plus tard la venue de Jésus dans le monde, et notre Paul l'a déjà lu tout à l'heure. Lui qui est de condition divine, Philippiens 2, verset 6, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a refusé ce qui fait la gloire des hommes, mais il a reçu toute la gloire de Dieu. Et il y a là un message puissant. Dieu enlève les faux semblants de ce monde, la gloriole des hommes, pour mieux faire rejaillir son authentique gloire. Voilà une raison. L'autre raison de ces circonstances qu'on peut discerner, je crois, est directement liée en fait à la précédente. En envoyant le Sauveur dans des conditions humbles, précaires, difficiles, Dieu préfigure le parcours de sa vie sur terre et ce qui est au cœur de sa mission, accomplir le pardon de nos péchés par sa mort sur la croix à notre place. Écoutons comment Jésus lui-même décrit son initiative en réponse à des disciples qui, eux, accordaient un peu trop d'importance aux honneurs visibles. Marc 10, versets 44 et 45. « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et le Fils de l'homme, bien sûr, c'est Jésus lui-même. Jésus n'est pas venu pour être admiré à la manière des hommes. Il est venu accomplir la puissance véritable, authentique de Dieu par une démarche d'humilité et de service. Et les circonstances de sa naissance sont un signe en ce sens. Et c'est pourquoi la saison de l'Avent est chaque année pour nous une invitation à l'humilité, à ne pas nous laisser tromper par tout ce qui brille, mais à rechercher l'humilité et la simplicité dans notre quotidien. Déjà Marie, dans son célèbre cantique chanté en tout cas dit ou chanté, on ne sait pas trop, qui nous est rapporté un peu plus tôt, s'écriait, chapitre 1, verset 52, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Voilà ce que disait Marie. En ce jour de Noël, donc, que notre regard sur le monde soit à nouveau changé pour que nous puissions voir, au-delà de cet écran de fumée que le monde place devant nous, la vérité de l'œuvre de Dieu qui ne rentre pas dans nos catégories, précisément parce qu'elle ne vient pas de nous, mais de lui. Et brièvement, la troisième et dernière divine surprise que je voudrais relever est celle du message, la surprise du message. En juillet 2008, une femme politique franco-colombienne, Ingrid Betancourt, ancienne candidate des Verts à la présidentielle de son pays, a été libérée par l'armée colombienne après avoir été otage de la milice FARC pendant environ 6 ans. Et vous en souvenez sans doute, pour ceux qui avaient l'âge de s'en souvenir, beaucoup s'étaient mobilisés pour elle, notamment en France, puisqu'elle était franco-colombienne. Beaucoup de personnalités françaises, notamment beaucoup de personnalités plutôt marquées par une idéologie humaniste très laïque. Pour ces personnes, Ingrid Betancourt, en tant que femme écologiste, représentait une sorte d'idéal. Mais dès sa libération, quelle ne fut pas leur surprise, parce que la priorité d'Ingrid Betancourt a été non pas de parler de ses combats politiques, mais de parler de sa foi nouvelle catholique. Elle disait que c'était Dieu qui l'avait sauvée, qu'elle avait prié tous les jours, qu'elle voulait rencontrer le pape. Et beaucoup de ceux qui l'avaient soutenue ont été très déstabilisés par ce discours qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils pensaient entendre et à ce qu'ils avaient envie d'entendre. Dans notre texte, on a le sentiment que la venue de Jésus, elle vient combler l'attente d'Israël, mais en même temps, le message qui est associé à sa venue prend ses attentes à contre-pied. Oui, c'est ce qu'on attendait, un sauveur, mais pas vraiment un sauveur comme ça, et pas vraiment un sauveur qui dit ces choses-là. Israël attendait un sauveur, attendait un roi depuis longtemps, on l'a dit. Zacharie exprime bien cette attente au verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Alors, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Quand vous habitez à Jérusalem à cette époque-là, c'est très clair à quoi vous allez penser. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous allez penser à un sauveur qui nous délivre de l'occupant romain et tant qu'à faire de nos élites corrompues qui collaborent avec Rome. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure Zacharie lui-même était au clair sur ce que Israël, sur ce que Jésus représentait vraiment. Mais ses paroles montrent que pour lui, il y avait quand même quelque chose de plus profond qui était en jeu que simplement l'occupation romaine. Au verset 75, il évoque la nécessité de marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice. Au verset 77, il parle de la connaissance du salut par le pardon des péchés. Au verset 79, il nous dit que l'intervention de Dieu a pour but d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, référence à Ésaïe, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Donc déjà, il y a un décalage entre l'attente traditionnelle d'Israël et ce qui est annoncé par Zacharie lui-même. Mais ce décalage s'amplifie lorsque Dieu va lever pour quelques instants le rideau sur la réalité invisible et que les anges apparaissent au berger, verset 14. Et qu'est-ce que chantent les anges? Ils ne chantent pas « Réjouissez-vous, Dieu va bouter les Romains hors de chez vous », mais tout autre chose, « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Ce n'est pas tellement ça que les gens avaient envie d'entendre, la bienveillance parmi les hommes en pleine occupation romaine. Et à la fin de notre texte, quand Siméon tient l'enfant Jésus, écoutons ce qu'il dit, verset 32, « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Oui, le Messie est venu pour Israël, mais il est venu aussi pour éclairer les nations. Oui, le Sauveur est venu délivrer son peuple de ses ennemis, de son ennemi, mais un ennemi beaucoup plus dangereux encore, beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus universel que l'occupant romain. Un ennemi qui est encore le nôtre aujourd'hui. Jésus est venu délivrer les hommes de toutes les puissances spirituelles et humaines qui éloignent l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi tous aujourd'hui ont besoin d'entendre ce message. Et alors que notre société nous pousse à ôter toute référence au sens spirituel de Noël, de façon qui tourne au ridicule de plus en plus, alors qu'il ne faut surtout pas parler de Noël, de ce que ça veut dire vraiment, eh bien, ce passage et d'autres nous invitent au contraire à le proclamer haut et fort, parce que l'humanité a besoin de son Sauveur. Et en venant dans notre condition humaine, Jésus n'est pas venu à notre convenance. Il est venu nous déranger profondément, et nous aussi qui sommes chrétiens. Il est venu renverser nos schémas préconçus, nos catégories, nos aspirations, nos valeurs. Alors que Noël soit pour nous l'occasion de voir, au-delà des fausses évidences de notre monde, l'œuvre du Dieu qui aura toujours le dernier mot.